Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons ouvrir ensemble la parole de notre Seigneur. Alors, nous sommes dimanche de Pentecôte. Alors, bon, je ne suis pas trop pour l'année liturgique parce que elle ne respecte pas tout à fait les temps bibliques. Hein, lorsqu'on pense que l'ascension était il y a si peu de temps en arrière. En réalité, dans la Bible, entre l'ascension et la Pentecôte, il y a beaucoup plus de temps que ce temps-là. Donc, bon, ça ne fait rien. Aujourd'hui, il est question de dimanche de Pentecôte. Ça va nous donner une occasion de parler du Saint-Esprit. Alléluia, hein ! Et de ce qui s'est passé ce jour-là et dans cette période-là. Et nous allons, pour cela, commencer par lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, et au verset 18, parce qu'il ne faut pas déconnecter les choses, hein, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte pour bien les saisir, bien les comprendre. Et là, c'est la parole du Seigneur qui s'adresse à ses disciples et qui leur donne ce qu'on appelle le grand ordre de mission, celui qui est toujours valable pour nous aujourd'hui. Matthieu 28, verset 18, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Voyez-vous ce premier passage. Et ceci nous amène aux Actes des Apôtres, chapitre 1er, où nous lisons à partir du verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je relis le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous savez, plus nous avançons dans la vie chrétienne véritable et plus nous réalisons que le Saint-Esprit doit pénétrer tous les aspects de notre vie avec Christ. Ainsi donc, il y a l'action individuelle du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant. Le Saint-Esprit qui commence par nous convaincre de péché, de justice et de jugement pour nous amener à la repentance et à la conversion à Dieu. Et puis le Saint-Esprit aussi en tant que consolateur pour apaiser nos craintes, pour adoucir nos peines et pour nous faire goûter à la douceur, à l'amour et à la bonté de Dieu. Et puis le Saint-Esprit qui est comme un vent, souffle où il veut, qui agit puissamment et mystérieusement en nous pour nous faire naître de nouveau et pour nous faire passer de la mort à la vie. Et puis le Saint-Esprit aussi qui veut nous remplir, qui veut nous baptiser de sa puissance, ceci pour nous équiper en particulier, nous protéger, nous fortifier de manière à pouvoir rendre témoignage à Christ. Et puis le Saint-Esprit qui veut aussi de cette façon nous donner accès à l'exercice des dons spirituels, hein, donc des dons spirituels, les dons du Saint-Esprit pour le service et pour l'édification de l'Église. Et puis le Saint-Esprit aussi qui veut nous remplir afin que nous puissions manifester le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la bénignité, la douceur, la maîtrise de nous-mêmes. Amen. Ceci pour notre plus grand bien et le bien aussi de notre entourage. Et le Saint-Esprit qui veut nous remplir de façon continue, continuellement. Et pour cela, eh bien, il faut aussi que nous nous entretenions, est-il marqué, dans un esprit de prière, de louange, de reconnaissance et d'adoration. Voilà, ça, ça concerne notre personne individuelle, si je peux dire. Hein, donc, et puis, il y a aussi l'action collective du Saint-Esprit. Dans le cadre de l'Assemblée ou de l'œuvre de Dieu, donc à une plus grande échelle, vous avez les fameux dons spirituels des uns et des autres que nous voulons mettre au service du Seigneur et aussi au service, bien sûr, de nos frères et sœurs, en même temps que nos dons naturels aussi, hein, évidemment. Et puis vous avez aussi, nous avons parlé de la manifestation du fruit de l'Esprit, ça a une place privilégiée dans les relations entre frères et sœurs en Christ et aussi pour l'accueil de ceux qui s'approchent, de ceux qui viennent. Et puis vous avez les ministères, qui sont aussi suscités par le Saint-Esprit, donc les ministères d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs, d'apôtres, de prophètes, ceci afin que des églises soient ouvertes, afin qu'elles puissent grandir en nombre spirituellement, qu'elles puissent se fortifier pour lutter et combattre pour l'avancement du royaume de Dieu, parce qu'il faut quand même se rappeler que pour Dieu, c'est l'Église. Ce sont les Églises qui sont, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Hein, faut toujours se souvenir de cela. Donc, voilà, ça c'est en introduction, mais voici un premier point, premier chapitre, sur lequel il faut insister, c'est que dès le départ du livre des Actes des Apôtres, et tout au long, le Saint-Esprit se révèle comme le grand promoteur de l'évangélisation et des missions dans le monde. Hein. Dès l'ascension de Jésus et à la Pentecôte, nous voyons que le Saint-Esprit élargit le champ de l'action de l'Évangile est-il marqué jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque Jésus a quitté ses disciples, ses dernières paroles furent un ordre de mission qui englobait dans son objectif la totalité des nations de la terre, puisqu'il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Mais il ne manque pas de souligner que ce programme ne pourra pas être réalisé, il ne pourra être réalisé qu'avec l'action et le soutien effectif du Saint-Esprit. Attendez, leur dit-il, attendez d'être remplis du Saint-Esprit. Et c'est alors, dans peu de jours, mais absolument, c'est alors que vous serez rendus capables d'être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, comme il est dit dans Actes 1, verset 8 que nous avons lu. Donc, alors, outre les divers attributs, les divers caractères du Saint-Esprit, que Jésus avait déjà enseigné à ses disciples, et dont nous avons parlé un petit peu en introduction, voici que Jésus présente maintenant le Saint-Esprit comme le moteur, comme le promoteur de ce vaste programme d'évangélisation dont la mission va désormais incomber aux disciples, on le voit, et le baptême et la puissance du Saint-Esprit sur eux sera donc prioritairement dans ce but-là, prioritairement pour cet objectif. Ça, c'est un premier chapitre. Ensuite, rappelons une deuxième chose, deuxième grand point important, c'est que pendant sa vie sur terre, le Seigneur Jésus a limité son ministère à une région géographique qui était quand même réduite, hein, on le voit. C'est-à-dire qu'il a parcouru la Galilée, la Judée, la Samarie avec quelques incursions dans les territoires voisins. Pourquoi ? Parce que sa mission à lui, lorsqu'il est venu sur la terre, c'était bien sûr déjà d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la parole de Dieu et de la confirmer par des prodiges et des miracles, mais essentiellement, sa mission, c'était d'accomplir le sacrifice d'expiation, le sacrifice expiatoire pour le péché des hommes, ceci par sa mort sur la croix, et puis de mettre aussi en évidence le salut et l'immortalité par sa résurrection, par sa victoire sur la mort. Voilà. Et en même temps, sa vie, c'était quelque part la dernière et la plus grande tentative du Père Céleste d'appeler Israël en tant que peuple à la repentance et à la foi en lui. C'est eux que Dieu aurait voulu utiliser prioritairement pour qu'ils soient le grand moyen d'évangéliser le monde. Hein. C'était en quelque sorte le plan A de Dieu. Hein. Nous savons comment Dieu avait envoyé les prophètes et comment souvent ils avaient été rejetés, refusés. Et puis finalement, il a envoyé le Fils. Et nous savons ce qu'ils ont fait du Fils. Hein. Et nous savons qu'à part une minorité, ils n'ont pas voulu de lui et ils l'ont rejeté en tant que Messie. Et ils n'ont pas voulu croire à sa parole. Et c'est ainsi qu'a été mis en route, en quelque sorte, le plan B de Dieu. Le plan B de Dieu, c'est nous. Le plan B de Dieu, c'est l'Église, issue non seulement des convertis juifs, mais de tous ceux qui se sont convertis de toutes les nations, et donc c'est cette Église qui va prendre naissance à la Pentecôte, en même temps que le Saint-Esprit va être répandu. Donc, la mission qui est clairement indiquée aux disciples, c'est de propager l'Évangile à tous les hommes. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de leur communiquer la puissance qui est nécessaire pour cette mission-là. Parce que vous savez, il faut être revêtu de la puissance d'en haut pour bousculer les forteresses de Satan. Quand vous êtes attaqué aux puissances occultes qui sont dans certaines personnes, hein, ou dans certaines situations, par exemple, ou quand il faut implanter l'évangile dans les cœurs, quand vous avez des gens, ils ont des forteresses de raisonnement qui sont blindées là, il faut la puissance de Dieu pour pouvoir bousculer tout ça. Et l'apôtre Paul le dit bien. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4, il est marqué « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amen. Et lorsque il dit à ses disciples « Vous serez mes témoins », il ne leur propose pas un témoignage passif, vous savez, comme s'ils étaient des spécimens qui sont livrés à la curiosité de leur entourage. Non, c'est un témoignage actif, un témoignage en vue du salut, un témoignage qui provoque une réponse, un témoignage qui est destiné à toucher les cœurs, hein, c'est-à-dire un témoignage qui soit accompagné de signes et de miracles, qui soit accompagné de guérisons et de délivrances, qui soit accompagné de paroles inspirées qui touchent ceux qui les entendent au point sensible de leur cœur, qui soit accompagné de paroles de sagesse, de paroles de foi, de paroles d'assurance et de conviction, afin que quiconque qui invoque le nom du Seigneur soit sauvé. Amen. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut l'impulsion du Saint-Esprit pour aller vers les autres, hein, ceux qui sont différents. Ceux qui sont différents par leur éducation, par leur culture, par leur façon de vivre. À plus forte raison, faut-il le secours du Saint-Esprit pour des missionnaires, par exemple, qui doivent quitter leur famille, qui doivent quitter leur pays, qui doivent quitter leurs habitudes de vie, pour aller parfois au loin porter ce message du salut. Parce que ce témoignage ne doit connaître aucune limitation géographique ou raciale. Tous les peuples sont inclus dans ces simples mots « quiconque ». Hein, voilà, donc ça c'est notre deuxième grand point. Ensuite, une troisième chose importante, c'est que l'esprit d'évangélisation et l'esprit missionnaire, c'est donc d'aller vers les perdus, hein, et vers tous les peuples. Rappelez-vous, lorsque le Saint-Esprit a été répandu sur les 120 disciples, ils se sont mis à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas, souvenez-vous, hein, et des gens venus de ces pays lointains à ce moment-là, pour célébrer à Jérusalem la fête de la Pentecôte, ont été étonnés de reconnaître leur langue maternelle et d'entendre pour la première fois parler des merveilles de Dieu dans leur langue. Hein ? C'est en Actes chapitre 2, verset 4 et verset 11. Et l'apôtre Pierre a immédiatement reconnu que c'était la manifestation du Saint-Esprit qui était promise par le prophète Joël, mais il apparaît qu'il n'a pas compris, l'apôtre Pierre à ce moment-là n'a pas compris tout de suite, que la volonté de Dieu était que la bonne nouvelle soit annoncée à tous les peuples. Or, nous voyons que le Saint-Esprit parlait d'emblée la langue de ces différents peuples. En quelque sorte, Dieu montrait qu'il voulait se révéler à eux dans leur propre culture. Voyez-vous ? Et l'esprit missionnaire, c'est d'aller vers les gens. C'est d'aller vers les gens. Ce n'est pas seulement une question de déplacement physique ou géographique, mais c'est une conception des rapports du messager et des destinataires du message. C'est de s'adapter à eux. Hein ? C'est-à-dire, ce n'est pas à eux de s'assimiler ou de s'intégrer au messager ou à ceux dont vient le message. Le Saint-Esprit veut apporter le message du salut dans leur propre contexte culturel, comme on dirait aujourd'hui, hein, et le missionnaire ou le témoin qui est envoyé par le Saint-Esprit apporte, il n'apporte pas sa civilisation en premier, il n'apporte pas sa culture en premier, sa culture d'origine, mais il apporte la parole de vie que Dieu adresse à tous les hommes, le témoignage que Dieu veut pour tous les hommes en s'adaptant à ses auditeurs. Amen. Ça, c'est un grand point qu'il faut aussi rappeler. Et puis une chose importante, une quatrième encore, remarquez qu'il est dans la nature des choses que quand le Saint-Esprit agissent, il allume dans le cœur régénéré, dans la personne qui est née de nouveau, qu'il allume un intérêt spirituel pour l'expansion de l'Évangile. Ça, c'est dans la nature des choses. Donc, que ce soit autour de lui ou que ce soit au loin, ce zèle missionnaire qui se manifeste rapidement dans le cœur du nouveau converti, c'est un zèle qui est spirituel. Et ce zèle, eh bien, il faut qu'il soit encouragé, qu'il trouve l'occasion de se manifester de manière concrète. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir le témoignage personnel, le 1 à 1, hein, qui fait partager avec d'autres ce qu'on a reçu de la part du Seigneur, ce qu'on a reçu en Christ. Et c'est pour cela qu'il faut reprendre les activités d'évangélisation, les réunions d'évangélisation, les missions, autant que cela puisse se faire et ne pas perdre de vue le grand ordre de mission. Surtout si on veut être baptisé du Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit. Il faut quand même se rappeler que l'effusion du Saint-Esprit, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, l'effusion qu'on appelait pentecôtiste, a lancé, a déterminé un zèle, un élan missionnaire absolument remarquable. Hein, alors que des hommes et des femmes courageux ont pénétré jusqu'au cœur de continents qui étaient quasiment inexplorés, qui ont atteint des peuples entièrement païens en y portant l'Évangile. Ils avaient le but à toute créature. Alors bien sûr, ça avait commencé auparavant, hein. Il y avait des précurseurs de grandes missions déjà qui avaient travaillé depuis le 17e siècle. Mais c'est vraiment avec cet immense travail fait depuis le début du 20e siècle que des églises vivantes existent maintenant dans ces différentes nations et qu'elles rayonnent aussi à leur tour là. Et donc, et je dirais même que nous, au niveau de notre œuvre, eh bien, on a pu expérimenter quelque chose de tout à fait comparable. Les périodes d'ouverture d'église, les périodes de mission intense ont vu se multiplier les baptêmes du Saint-Esprit au milieu du peuple de Dieu. Et je dirais que ceux qui aujourd'hui encore ont à cœur de s'engager sérieusement dans ce beau, dans ce grand travail, ils ne manqueront pas d'être équipés par le Seigneur qui va ainsi les baptiser, les remplir, de manière à ce que celui qui croit en moi, dit le Seigneur, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Voilà, encore faut-il bien sûr le désirer et le rechercher. Vous savez, notre génération est tellement loin d'être évangélisée, et le Saint-Esprit veut nous pousser aujourd'hui à porter ce témoignage du Sauveur vivant, puissant, en tout lieu où se trouvent des hommes qui existent, qui vivent sans connaître l'amour de Dieu. Amen. Et puis, une cinquième chose remarquable, surtout si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, c'est de voir comment le Saint-Esprit élargit les ministères en vue de l'évangélisation du monde. Donc, c'est un fait qui est clairement mis en évidence dans ce livre-là, c'est que des disciples entièrement soumis à l'action du Saint-Esprit ont pu être utilisés de plus en plus efficacement par le Seigneur au travers des dons, des ministères qu'il leur a accordés et qu'il a développés en eux. Lorsque vous prenez l'exemple de la première assemblée à Jérusalem, voilà, vous voyez que c'est sous l'impulsion du Saint-Esprit que des diacres sont devenus évangélistes, ont été changés en évangélistes. Ces hommes, dont il nous a dit qu'ils étaient remplis d'esprit saint de sagesse, ont vu leurs activités sortir du domaine simplement social, de service aux tables, pour devenir de puissants messagers de la bonne nouvelle. Ainsi, Étienne s'est mis à faire des prodiges et de grands miracles. Il était diacre au départ. Et puis, il est marqué qu'il confondait les contradicteurs par la sagesse et l'esprit par lequel il parlait. Et vous avez aussi l'exemple d'un autre diacre, c'est Philippe. Philippe qui a été amené à évangéliser la Samarie, et sous la conduite du Saint-Esprit, il a réalisé ainsi la troisième étape du programme indiqué par Jésus. Rappelez-vous, Jésus avait dit, vous serez mes témoins en premier à Jérusalem, en Judée, en Samarie, troisième étape, quatrième étape, jusqu'aux extrémités de la terre, donc voilà. Et puis il a été conduit par le Saint-Esprit après, sur la route de Gaza, et il a amené au salut, rappelez-vous, le ministre éthiopien, et il l'a baptisé. Et tandis que cet homme retourne vers son pays, c'est la quatrième étape indiquée par le Seigneur qui se met en route, qui se met en œuvre, parce que le message du salut va être apporté ainsi pour la première fois dans la lointaine Éthiopie. Amen. Et donc, c'est encore par une intervention directe du Saint-Esprit que des pasteurs docteurs vont devenir missionnaires. Ça aussi, c'est intéressant à relever. Parce que dans l'assemblée d'Antioche, dont il nous est question dans le chapitre 13 du livre des Actes, dans l'assemblée d'Antioche, voici un groupe d'au moins 5 hommes qui étaient en train de servir le Seigneur dans leur ministère. Il y avait des prophètes et des docteurs, nous est-il dit. Ils travaillaient là, sur place, à l'évangélisation des croyants de cette grande assemblée et à l'évangélisation de cette ville et de sa région. Et c'est alors que le Saint-Esprit parle et leur demande de mettre à part Barnabas et Saul pour l'œuvre particulière à laquelle il les appelle. Et il est marqué en Actes 13, verset 2, verset 4, qu'ils vont partir envoyés par le Saint-Esprit. C'est bien marqué dans le texte. Pour leur premier voyage missionnaire, qui sera suivi après par d'autres, ça nous est décrit dans la suite du livre des Actes, et ces voyages sont autant de modèles, autant d'exemples pour nous aujourd'hui quant à la façon de se laisser diriger par l'Esprit, quant au message et au témoignage à annoncer, quant à la façon de gérer les difficultés de cette œuvre, quant à la façon de travailler au salut des âmes, ainsi qu'à l'ouverture et au développement des églises. Voilà. Donc, et puis notre sixième grand point, notre sixième grande remarque, c'est que le Saint-Esprit est aussi le grand coordonnateur de l'évangélisation du monde et de l'œuvre de Dieu où qu'elle se produise. Rappelez-vous, et ça nous sommes dans Actes chapitre 9, c'est qu'à Damas, le Saint-Esprit parle par une vision à Saul, mais aussi à Ananias. Il leur parle aux deux. Il arrange une entrevue entre ces deux hommes. Il indique même l'adresse précise où la rencontre doit avoir lieu. Et c'est là que Saul va recouvrer la vue. C'est là qu'il va être baptisé d'eau. C'est là qu'il va être rempli du Saint-Esprit. Et désormais, il va s'engager résolument au service de celui qu'il persécutait. Donc, Dieu savait qu'il utiliserait cet homme comme un instrument efficace pour l'expansion de l'Évangile. « Je t'enverrai au loin vers les nations », c'est dans le verset 15 de ce chapitre 9. Donc, et c'est aussi par une vision que le Saint-Esprit va amener l'apôtre Pierre cette fois-ci à entrer en contact avec les païens pour leur annoncer l'Évangile. Là, nous sommes dans le chapitre 10. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la voix du Seigneur apprend d'abord à Pierre à ne pas regarder comme impur ce que Dieu a déclaré pur, et de son cœur, il va éliminer ce préjugé racial, ethnique, religieux qu'il pouvait encore y avoir. Donc, et puis le Saint-Esprit lui dit de suivre les messagers qui ont été envoyés jusqu'à sa porte par le centenier Corneille. Et celui-ci, ce dernier, a aussi eu une vision spirituelle par laquelle le Saint-Esprit lui indiquait l'adresse précise où se trouvait ce messager du salut. Et comme Pierre, après, arrive là, et puis qu'il prêche dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit descendit, est-il marqué, sur tous ceux qui écoutaient la parole, et ils parlèrent en langue et glorifièrent Dieu. Alléluia. Donc, Pierre a compris alors que les païens, les étrangers, non-juifs, étaient aussi bénéficiaires de la grâce de Dieu et qu'ils avaient également place dans l'Église de Dieu, voyez-vous. Et puis, quelques années plus tard, lorsque le Saint-Esprit a pu mettre à part des hommes pour les envoyer au loin prêcher l'Évangile, c'est le Saint-Esprit qui va les diriger dans leur pérégrination. Là, nous sommes au chapitre 16 du livre des Actes. Et je lis simplement ce passage. « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, c'est-à-dire l'Asie mineure, actuellement la Turquie, enfin une partie de la Turquie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. » Vous voyez un peu ça, c'est quand même surprenant, vous ne trouvez pas ? Quand vous lisez ça, le Saint-Esprit, dans sa stratégie, laisse l'Asie mineure provisoirement de côté et il conduit par priorité les apôtres en Macédoine, puis en Achaïe, c'est-à-dire la Grèce actuelle. Donc il a fait franchir le détroit pour les amener en Europe. Mais quelques années plus tard, le même apôtre Paul va être conduit à se fixer pour un temps à Éphèse, qui était la capitale de l'Asie mineure, afin d'évangéliser le pays. Et à ce moment-là, une merveilleuse démonstration d'esprit et de puissance va confirmer son message. Les sept églises de l'Apocalypse, Éphèse en tête, sont le résultat de cette stratégie du Saint-Esprit à ce moment-là. Et on voit qu'elles sont toutes les sept en Asie mineure. Et on peut remarquer aussi que c'est le Saint-Esprit qui a conduit les circonstances pour amener l'apôtre Paul à prêcher l'Évangile devant des gouverneurs, devant des rois et des empereurs, conformément à ce qui avait été élaboré dans le Conseil de Dieu, c'est dans Actes chapitre 21, verset 11. Alors en conclusion, on fait très justement remarquer que ce livre des Actes des apôtres n'est pas terminé. Et c'est vrai, et je crois que nous en vivons en ce moment les derniers chapitres qui se sont continuées tout au long de l'histoire de l'Église, en attendant le retour du Seigneur. Alors que vous arrivez à la fin des Actes, chapitre 28, ben, vous voyez bien que c'est pas, ça attend une suite, hein. Ça attend une suite, et on pourrait d'ailleurs très bien appeler ce livre le livre des actes du Saint-Esprit, tellement il est à l'œuvre, tellement il est agissant, tellement il est présent. Et en passant d'ailleurs, remarquez qu'il donne un bon coup de pied dans cette fausse doctrine qui prétend que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, mais qu'il n'est qu'une puissance, hein, alors que là, les caractères de sa divinité sont combien mis en évidence, hein, nous voyons cela. Alors, ayons à cœur donc de faire une plus grande place au Saint-Esprit dans notre vie personnelle et dans notre vie d'assemblée. Ayons à cœur de développer l'amour des âmes, la vision d'évangélisation, la vision missionnaire. Prions pour des hommes et des femmes qui soient qualifiés spirituellement, pour des jeunes gens, des jeunes filles qui se mettent à part pour servir le Seigneur, pour accomplir sa volonté, qui s'y engage pleinement et de tout cœur. Et prions aussi pour des directions, prions pour des portes qui s'ouvrent là où les besoins sont les plus urgents, les plus pressants, et puis aussi pour le discernement afin de ne pas les manquer. Voilà. Et tout ceci nous amène à un dernier grand point, une grande question qui doit préoccuper tout vrai croyant. C'est le sujet de notre dernier chapitre. Qu'est-ce que la direction du Saint-Esprit ? Le fait d'être dirigé par l'Esprit. Vous savez, il y a plusieurs facteurs majeurs qui sont associés à la direction de l'Esprit, au fait d'être conduit par le Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres, et il est très bon de les connaître ou de nous rappeler leur importance. Déjà, la première chose, si on veut être conduit par l'Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est déjà par là que ça commence. Donc, et dans les Actes, nous voyons que Pierre, Étienne, Barnabas et d'autres sont décrits comme étant remplis du Saint-Esprit. Alors, ça fait référence à quoi ? Ben, ça fait référence à leur communion avec Dieu, ça fait référence à leur vie de disciple, et aussi à leur témoignage, et aussi à leur prédication, et aussi à leur ministère, etc. Voilà. Mais avant ça, rappelons-nous quand même qu'il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, pour ceux qui viennent au Seigneur, pour ceux qui croient, ça c'est quand même la normale des choses. Vous avez plusieurs passages qui nous le montrent. Actes chapitre 8, verset 10. « Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Voyez-vous ? Donc, chez les Samaritains qui ont cru. Ensuite, au chapitre 10. Donc là, nous avons déjà parlé de ce qui s'est passé dans la maison de Corneille. Je lis au verset 44. « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Alléluia. Et puis vous avez encore au chapitre 19 par exemple, et là c'est Paul donc qui se trouve à Éphèse cette fois-ci, et puis il a offert à un groupe d'une douzaine d'hommes qui sont des disciples de Jean-Baptiste, donc voilà, puis qui ont donc reçu un message, une base, en tout cas un fondement qui est très bon, parce que c'est le message de la repentance et de la foi, très bon mais incomplet. Et c'est pourquoi il est marqué au verset 5, « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Et rien que sur ces trois passages, nous voyons ainsi que ce baptême du Saint-Esprit vient sur ceux qui écoutent la parole et la reçoivent, vient sur ceux qui engagent leur vie pour Christ et qui se font baptiser. Que ce baptême du Saint-Esprit, c'est pour ceux qui aspirent vraiment à aller plus loin avec le Seigneur. Ça se manifeste aussi par le parler en langue de manière régulière. Ça s'accompagne d'un esprit de louange et du fait de glorifier Dieu. Et puis, habituellement, pas forcément toujours, mais quand même habituellement, ça passe par l'imposition des mains. Et puis, ça amène aussi à prophétiser, c'est-à-dire à manifester les dons spirituels. Et ce baptême du Saint-Esprit doit nous amener à demeurer ensuite rempli du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on va faire pour demeurer rempli du Saint-Esprit ? Comment est-ce qu'on va faire pour que le baptême du Saint-Esprit ne soit pas juste une expérience passagère ? Pour qu'on ne soit pas obligé de dire avec nostalgie « Ah, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, voilà, il y a tant d'années en arrière, et puis, qu'est-ce qu'il y a eu après ?» Voilà la question, hein ? C'est ça la question. Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, l'apôtre Paul nous dit, « Soyez au contraire remplis de l'Esprit ». Et la traduction littérale, c'est même « Soyez continuellement remplis de l'Esprit ». C'est ça que ça veut dire. Et il continue en disant, et nous explique, voilà le secret pour être et rester rempli de l'Esprit, c'est « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâces à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Éphésiens 5, versets 18 à 20. Et ça veut dire que c'est quand on est dans cette attitude de reconnaissance, cette attitude de foi, cette attitude de gratitude et de louange envers le Seigneur, c'est là qu'on est rempli et c'est là que le Seigneur peut, le Saint-Esprit peut nous conduire, que le Saint-Esprit peut nous diriger. Comme on le voit par exemple dans Actes 8, verset 29, où il est marqué « L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. » Philippe a couru, est-il marqué. Qu'est-ce qu'il a ? Vous avez entendu ce qu'il a dit le Saint-Esprit. « Avance, approche-toi de ce char. » Il y a l'Éthiopien qui était dedans. Donc, avancer, s'approcher, ça veut dire qu'on peut le faire à petits pas, on peut le faire, voilà, on peut peut-être un petit peu hésiter, se dire, attends, je ne connais pas le bonhomme, etc., voilà. Philippe a couru, et c'est parce que Philippe a couru, c'est parce qu'il a obéi tout de suite, c'est parce qu'il a obéi avec ardeur que le miracle s'est produit. Le miracle, c'est quoi ? C'est qu'il est arrivé à l'instant T exact, à la seconde même, où l'Éthiopien, le ministre éthiopien, était en train de lire à voix haute dans le livre du prophète Ésaïe le passage à partir duquel il allait pouvoir, Philippe allait pouvoir lui expliquer l'évangile, lui annoncer le message. Si Philippe avait hésité, si Philippe avait avancé doucement vers le char, s'il avait traîné, le miracle ne serait pas accompli, pas de la même façon en tout cas. Mais c'est parce que Philippe avait un esprit d'obéissance immédiat, et c'est à cause de cela que le miracle a pu s'accomplir pleinement, frères et sœurs. Et je crois que c'est un très bon exemple pour nous, c'est un très bon modèle que nous avons là. Parce qu'effectivement, il est tombé exactement sur le passage, il a pu à partir de là lui annoncer l'évangile, et nous savons comment l'Éthiopien s'est admirablement converti au Seigneur également. Lorsque je lis un pareil dans Actes chapitre 10 au verset 19, là aussi je vois la conduite du Saint-Esprit. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici trois hommes te demandent. Lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. La conduite du Saint-Esprit. Actes chapitre 13 verset 2. Et là, il nous est parlé donc d'Antioche et de ses serviteurs de Dieu qui étaient là, ces cinq hommes dont j'ai parlé tout à l'heure, ces cinq ministères. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et au verset 4, « Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, c'est bien marqué, descendirent à celle-ci. » Et puis notre texte que nous avons déjà un petit peu lu, mais que je rappelle, Actes chapitre 16, versets 6 et 7, encore la direction du Saint-Esprit, mais même si elle se manifeste par des empêchements. « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Amen. » Et puis, il y a une autre chose qu'il faut considérer quand on veut être dirigé par le Saint-Esprit, c'est l'importance de la parole de Dieu. Le rapport étroit qu'il y a entre le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Là aussi, c'est très frappant dans le livre des Actes des Apôtres. Nous voyons que le Saint-Esprit guide et dirige au travers de la parole de Dieu, puisque c'est aussi sa parole, c'est normal, Il est Dieu, c'est sa parole. Lorsque vous regardez dans au moins trois passages, vous voyez que le Saint-Esprit prononce des paroles et à chaque fois, il s'agit d'une citation de l'Ancien Testament. Par exemple, dans Acte 1, verset 16, l'apôtre Pierre, donc, dans son message, dit « Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, etc. » Donc, le Saint-Esprit cite une parole de l'Ancien Testament à ce moment-là. Vous retrouvez la même chose dans Actes 4, verset 25. Donc, et là, c'est cette prière qu'il faut monter à Dieu. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, etc. Donc, là encore, on voit que c'est le Saint-Esprit qui prend une citation de l'Ancien Testament. Et vous retrouvez ça tout à la fin du livre des Actes, pour, je dirais, vers, oui, justement, l'apôtre Paul, dans sa conclusion, de dire, au chapitre 28, au verset 25, à ses auditeurs, et il leur dit, comme il se retirait en désaccord, Paul ajouta ces mots. « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à nos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dit, etc. » Donc, nous voyons l'importance de l'attachement à la parole de Dieu. C'est dit encore, c'est manifesté encore d'une façon très pratique dans le chapitre 20 des Actes. Et là, l'apôtre Paul arrive à la conclusion d'un discours d'adieu aux anciens de l'église d'Éphèse, donc les responsables de l'église d'Éphèse, et puis il leur dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu. » Voilà. Il leur parle donc, il leur parle comme étant des gardiens que le Saint-Esprit a établis. Et on peut se poser la question, mais comment est-ce que le Saint-Esprit a fait cela? Comment est-ce que le Saint-Esprit les a établis? Alors, lorsqu'on remonte un petit peu avant, dans l'origine de l'église d'Éphèse, en particulier au chapitre 14, au verset 23, on voit que Paul et Barnabas ont nommé des anciens dans les églises. Paul et Barnabas ont nommé des anciens dans les églises. Autrement dit, ces anciens ont été nommés par des hommes et par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par des hommes remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Paul et Barnabas ont recherché la volonté de Dieu, et ils ont agi conformément à cette volonté, ils ont prié, ils ont sondé la parole, et c'est pour cette raison encore que la fonction d'ancien, pour la fonction d'ancien, les qualifications spirituelles sont mentionnées dans le troisième chapitre de l'Épître à Timothée et dans le premier chapitre de l'Épître à Tite. Donc, elles ont été pour Timothée et pour Tite le critère pour déterminer qui était apte à remplir cette fonction d'ancien. Donc, ça veut dire que quand le Saint-Esprit établit des personnes, il ne faut pas qu'on confonde ça avec une espèce de conception mystique erronée, donc de la direction du Saint-Esprit. Nous voyons que ce choix passe par la prière, par des ministères dépendants du Seigneur, remplis du Saint-Esprit, et par la confirmation de la parole de Dieu. D'où l'importance, encore une fois, de l'attachement à la parole de Dieu. Amen. Et puis, nous pourrons prendre aussi un exemple important de la direction du Saint-Esprit. Là aussi, ça nous éclairera, rien de tel que les exemples pratiques. Actes chapitre 16, versets 6 à 10. Donc, ça nous relate cet événement particulier, à propos de que j'ai déjà lu un petit peu. Mais ça illustre comment l'apôtre Paul a été conduit par l'Esprit. Donc, lui et Silas étaient en train à ce moment-là d'accomplir le deuxième voyage missionnaire. Et le Saint-Esprit les empêche à deux reprises d'annoncer la parole de Dieu. Hein, donc, et remarquez que Paul n'a pas attribué ça au diable. Hein, donc, il n'a pas attribué au diable le fait qu'ils étaient empêchés d'agir. Vous savez, c'est en effet une explication simple et apparemment spirituelle qui est souvent utilisée. Lorsque ce que nous aurions souhaité ne se produit pas, ou que ça ne se passe pas comme nous le désirons, on a vite fait d'incriminer le diable. Il ne faut pas être le diable non plus à toutes les sauces. Hein. Donc, or, parfois, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui réduit à néant des plans, des désirs, qui peuvent être pieux d'ailleurs. Hein. Pourquoi? Mais parce que ses plans et ses desseins à lui sont différents pour nous, et au bout du compte d'ailleurs, au bout du compte, largement meilleur. Hein. L'apôtre Paul est capable de faire la différence parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 18, il parle de Satan qui l'a empêché à deux reprises de se rendre à Thessalonique. Voyez-vous? Mais là, dans le cas décrit en acte 16, il a reconnu que c'était le Seigneur qui, à travers son esprit, empêchait la progression dans cette direction qu'ils avaient prévue. Il est intéressant de noter comment Paul et ses compagnons ont réagi à ça. Donc, ça permet là aussi de corriger certaines idées fausses sur la direction du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit s'est opposé au projet de Paul et Silas, ben, ces derniers ne sont pas restés les bras croisés à attendre passivement de recevoir une révélation particulière, voyez-vous. Ils voulaient d'abord aller à l'ouest, donc dans la province d'Asie mineure, pour annoncer l'Évangile, et voilà que le Saint-Esprit les empêche de le faire. Qu'est-ce qu'ils font? À ce moment-là, ils se tournent pas les pouces, mais ils se tournent vers la Mysie. Et ils ont essayé de continuer leur progression vers l'Est cette fois-ci, pour évangéliser encore. Et là encore, le Saint-Esprit, toc, les bloque, il n'a pas permis. Et les voilà donc qui vont à Troas. Et c'est à Troas qu'ils reçoivent l'ordre d'aller en Macédoine, c'est-à-dire en Europe, à travers une vision pendant la nuit. Vous savez, beaucoup de chrétiens, enfin tous les chrétiens, tous les chrétiens, peuvent être comparés à une semi-remorque de 30 tonnes, vous savez. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'elle est à l'arrêt, il faut un puissant tracteur pour la faire bouger, hein, pour la faire évoluer. Mais dès qu'elle est en mouvement, elle est beaucoup plus facile à diriger. Et c'est avec que de chrétiens qui attendent la volonté de Dieu sans rien faire. Au lieu de passer à l'action, pourtant le Seigneur veut nous conduire quand nous sommes en mouvement. Hein, c'est comme ça qu'il veut faire. Donc on le voit avec Paul et Silas, et ils doivent se mettre en mouvement pour que le Seigneur puisse les conduire à l'endroit et dans la position et dans la situation où il veut les utiliser. Voyez-vous, connaître la volonté de Dieu, eh bien c'est souvent comme de marcher, je dirais, dans une impasse, voilà, une impasse où les portes se ferment sur les côtés jusqu'à ce qu'on se retrouve devant la dernière porte, un peu plus avancée, si large qu'on ne peut pas la manquer, et à ce moment-là, la porte s'ouvre. Souvent, c'est comme ça que ça se passe, il n'y a plus qu'à passer là, et je dirais la réaction de Paul et Silas, qui est intéressante aussi, qu'on peut voir là dans le verset 10 de ce chapitre 16, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voyez-vous, Paul a réagi immédiatement, et je dirais que c'était la seule réaction possible. Et c'est la seule réaction possible quand un cœur persévérant, sensible aux directions du Saint-Esprit, tombe ainsi sur une porte ouverte. Amen. Alors, vous trouverez peut-être beaucoup de portes closes, hein, donc, mais c'est souvent de cette façon que Dieu va vous amener à la porte qui va s'ouvrir. Et c'est pour ça qu'il faut persévérer, il ne faut pas abandonner. C'est pour ça qu'il faut, considérer d'ailleurs que l'Asie mineure n'a pas été abandonnée pour autant, hein, elle aussi. Hein. Peut-être qu'à ce moment-là, les cœurs n'étaient pas encore mûrs pour l'Évangile. Peut-être que les circonstances n'étaient pas encore aussi favorablement disposées. Mais en tout cas, quand l'apôtre Paul y reviendra plus tard, ce sera certainement pour connaître le plus grand succès de son ministère. Le Saint-Esprit sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Et quand nous considérons justement ces événements du deuxième voyage, ce deuxième voyage missionnaire, donc là, nous voyons que Paul et Silas, en fait, ont été dirigés par trois séries de moyens complémentaires. Et ça, c'est important aussi à relever et à retenir. Déjà, il y a eu en premier la décision personnelle que Paul a prise. Et ça, c'est dans le chapitre précédent. Chapitre 15, donc avant de partir, verset 36, il est marqué « Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir dans quel état ils sont. » Ça, c'est au départ. Donc, décision bien sûr qui était motivée par l'amour des âmes qu'il y avait en Paul, par son cœur de berger, par l'amour des églises naissantes, et puis par son désir de servir le Seigneur au mieux dans son ministère. Mais c'était quand même une initiative qui venait de lui. Voyez-vous, il y avait déjà ce premier point qui est important et sans lequel d'ailleurs aussi rien n'aurait pu se faire. Et après, deuxièmement, ben, il y a justement cette direction du Saint-Esprit. Les directions du Saint-Esprit, les directions spirituelles qui ont empêché Paul et Silas de poursuivre leur route et les ont conduits à Troas. Et là, ils ont eu leur appel pour l'Europe. Et voyez-vous, c'est là que ça nous montre que si notre décision personnelle est nécessaire, elle n'est cependant pas suffisante. Hein. Il faut la direction du Saint-Esprit, on le voit. Il faut être sensible à l'Esprit et il faut rester en communion avec Dieu. Et il faut rester dans la plénitude du Saint-Esprit et il faut le faire, voilà, dans la prière, dans la louange, dans la foi et dans l'action de grâce. Ça, c'est le deuxième moyen. Et puis, vous avez eu un troisième moyen aussi qui a suivi tout cela. C'est qu'après avoir été passé en Macédoine, on le voit, et là, il a prêché à l'église de Philippe, enfin, il y a eu l'ouverture de l'église de Philippe, hein, toutes sortes de péripéties là, sur lesquelles je ne m'étends pas. Mais Paul, tout naturellement, à ce moment-là, a suivi la route principale en Macédoine jusqu'à la ville de Thessalonique. Et là, il s'est arrêté. Pourquoi ? Parce que c'était un endroit stratégique. C'est là que se croisaient la route est-ouest et la route nord-sud. Hein, c'était ce carrefour-là. Et c'est comme ça que l'église de Thessalonique a été ouverte. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quelque part un troisième moyen qui était un moyen naturel, je dirais, un moyen qui utilise tout simplement le bon sens. qui utilise les raisonnements, qui donc a eu aussi toute sa place. Et vous pouvez remarquer que le Seigneur, la direction du Seigneur, la direction par le Saint-Esprit, a impliqué par conséquent des moyens personnels, spirituels et naturels. Et je crois que c'est important de rappeler cela, c'est important de se rappeler que c'est de cette manière-là que l'œuvre de Dieu se fait. L'œuvre de Dieu se fait encore. Et tout disciple de Christ doit chercher à être rempli du Saint-Esprit, doit chercher à être conduit par lui. Et ce qui est primordial pour ça, c'est d'avoir une vie qui est guidée par la parole de Dieu, en cherchant à faire sa volonté jour après jour, en étant en communion avec le Seigneur jour après jour, et en ayant à cœur son service dans les grandes et les petites choses. Ne cherchons pas avant tout des expériences extraordinaires. Vous savez, il y a des gens, ils sont là, ils viennent au Seigneur, ils veulent faire des expériences, ils veulent ressentir des choses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas le Seigneur qui veut le servir. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui veulent gratifier. Ce n'est pas encore le Seigneur qui est en premier. C'est eux qui sont encore sous un vernis spirituel. C'est encore eux qui sont en premier dans leur vie. Ce n'est pas le Seigneur qui est en premier. Or, ce qui est important, ce n'est pas nous en premier. Ce qui est important, c'est le Seigneur en premier. Nous sommes des serviteurs et des servantes du Seigneur. Voilà, c'est ça qui est primordial. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, c'est la première chose. Mais si nous obéissons, si nous avons cette confiance, cette obéissance de la foi, alors nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia! Alors nous verrons le Seigneur intervenir et il nous donnera effectivement de réaliser des expériences admirables de sa grâce et de sa puissance. C'est son désir, c'est sa volonté pour chacune et chacun de nous aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Amen, Jésus. Amen. Alléluia. Puis nous avons quelques annonces. Je vous rappelle la réunion de prière, mercredi à 16h. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour y participer. La prédication et le témoignage en ligne, c'est vendredi soir à 20h15 sur le site de l'Église. L'évangélisation dans les villages, c'est le samedi. Rendez-vous ici à 14h30 pour ceux qui veulent y participer. Donc, on fait du travail en boîte aux lettres en ce moment. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous soutienne et vous accompagne.